à tous, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bienvenue dans votre magazine de l'environnement. L'aventure des plantes a commencé dans la mer il y a 3 milliards d'années. Depuis, elles ont développé des trésors d'ingéniosité chimique pour s'adapter à tous les milieux. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses à être menacées d'extinction. Heureusement, il existe des lieux comme le Conservatoire botanique de Brest.
Ce qui est intéressant, c'est que le jardin, en fait, est une succession d'évocations de zones bioclimatiques. Ici, vous avez les contreforts de l'Himalaya, qui sont suggérés par un certain nombre de mangliaceae, de magnoliaceae, michelia, rhododendron, etc., himalayens. Donc on va passer dans la bambouseraie, on va aller tout en bas du jardin dans la zone méditerranéenne canarienne, on reviendra par la Chine et on ira au CERN.
Beau programme.
Le Conservatoire botanique de Brest, dans l'ouest de la France, abrite une des trois plus importantes collections de plantes du monde. 4000 espèces, dont plus de 1700 seraient menacées d'extinction. Dans un seul but, les multiplier et les replanter dans leur milieu d'origine. Ça sera un reportage d'Églantine Chabasseur qui nous emmènera visiter ce lieu hors du commun. Donc, à tout à l'heure pour la deuxième partie.
Une planète pas polluée, préserver la terre. Et ne pas laisser les déchets en plastique s'envoler partout, dans la mer, dans la nature, sur les arbres et tout. Pas de déchets toxiques et tout ça. Protégeons la terre, c'est important pour nous, pour tout le monde.
Et oui, c'est important pour tout le monde de protéger la terre. C'est forcément aussi votre avis, Jacques Rocher, bonjour.
Bonjour, ben oui, c'est fondamental même.
Alors vous êtes, sinon vous ne seriez pas là dans cette émission. Alors vous êtes le président de la fondation Yves Rocher, directeur du développement durable et de la prospective du groupe français Yves Rocher. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre groupe pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas ?
Un groupe qui a un fort ancrage nature, évidemment.
Il a d'abord un fort ancrage dans un petit village en Bretagne, puisque notre groupe est originaire de ce village. Ma famille est originaire de ce village depuis 2 siècles. Mon père et ma mère sont originaires de ce village. Mon père est Yves Rocher. Donc ce village s'appelle la Gacilly. À ne pas dire la galaxie, parce qu'il y en a qui le disent, mais non, c'est la Gacilly dans le Morbihan en Bretagne. Et c'est vrai qu'on a un ancrage local très très fort. Et donc on a aussi un rapport avec la nature, puisque nous cultivons des champs de fleurs bio. Qui fait que, encore une fois, les cycles de la nature, on les vit au cours des saisons. Je pense que c'est ça qui caractérise
Pour que les auditeurs comprennent bien, vous n'êtes quand même pas une petite PME implantée en Bretagne. Vous êtes un grand groupe international présent dans le monde entier et vous vendez majoritairement des cosmétiques. Vous avez eu 6 marques de cosmétiques plus 2 autres marques dans d'autres domaines. Voilà, c'est quand même un grand groupe. En termes de chiffre d'affaires, de salariés, etc., et d'implantation internationale.
Nous sommes 15 000 dans le monde. Voilà. Nous sommes 3500 en Bretagne, dans nos sites de production en Bretagne. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait qu'on est à la fois local et global. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le propos est effectivement d'agir localement, mais de penser globalement. Ça, c'est peut-être une de nos caractéristiques.
Alors, vous allez maintenant jouer à ce jeu de décortiquer avec nous l'actualité environnementale. Et pour commencer, Arnaud, il y a cet incendie qui a détruit la forêt primaire africaine.
Oui, samedi dernier, un incendie a démarré dans le parc national des volcans, dans une épaisse forêt qui recouvre les contreforts du volcan Muhabura, à cheval entre le Rwanda et l'Ouganda. Le feu a détruit environ 200 hectares de forêt primaire au Rwanda et a pu être arrêté en Ouganda hier en début de journée. Alors à ce propos, on est justement en ligne avec Gabriel Kahn, qui est avec nous en direct de Kampala. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Alors Gabriel, quelles ont été les conséquences de cet incendie sur l'environnement ?
Eh bien, l'Ouganda a perdu presque autant de forêts dans les flammes ces derniers jours que le Rwanda, soit selon l'un des responsables du parc des volcans côté ougandais, Charles Sumwe, environ 1/15 ou 1,5 km² de surface de ce parc. Cette forêt primaire qui pousse sur les contreforts de plusieurs volcans est constituée d'espaces plus ou moins boisés avec quelques marécages et des bambous. Elle s'étend à cheval sur le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Chatumwe affirme que les gorilles des montagnes dont cette forêt est l'ultime refuge au monde n'ont pas été touchés par cet incendie qui a détruit l'est du parc alors que les gorilles vivent selon lui au centre et à l'ouest. Des rapports précédents relayés par la presse ougandaise faisaient état de la fuite des animaux, qui inclut aussi des éléphants, vers la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises et ougandaises, notamment leurs armées respectives, ont collaboré pour circonscrire l'incendie en coupant notamment des couloirs dans la végétation. Le responsable des opérations pour l'autorité de gestion des parcs nationaux en Ouganda, Moses Mapesa, considère que ce type d'incendie peut se révéler bénéfique sur le moyen terme, car il permet, souligne-t-il, à la forêt primaire de se régénérer.
Alors Gabriel Klein, quelle est peut-être l'origine de cet incendie ?
Eh bien, on croit le responsable des gardes du parc du côté rwandais, Prosper Wingeli. Cet incendie a été créé par un homme qui tentait d'enfumer un nid d'abeilles pour s'emparer de leur miel. Mais pour le quotidien d'État ougandais New Vision, cet incendie aurait été provoqué par l'armée rwandaise, soucieuse de déloger des rebelles hutus. De fait, cette forêt transfrontalière a toujours servi de voie de passage aux groupes armés qui pullulent dans cette région.
Merci Gabriel Kahn. Jacques Rocher, comment vous recevez ce genre d'informations ?
Ouais, pour moi, une forêt qui brûle, c'est un peu de la perte de l'humanité. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans des forêts comme ça, au Rwanda ou en Ouganda, bon, a priori, le feu n'a pas l'air aussi important que ça. Il faut savoir quand même que tous les jours qui se passent, c'est aujourd'hui, plutôt volontairement d'ailleurs, c'est l'équivalent de 3 fois la surface de Paris qui est détruite au niveau de nos forêts. Hein, donc, bien souvent, c'est volontairement, hein, puisque derrière, il y a des feux qui permettent de mener à bien des exploitations agricoles. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours symbolique de voir que derrière, bien évidemment, derrière les arbres qui brûlent, ben, c'est des espèces végétales, c'est des espèces animales qui sont menacées.
Mais surtout que là, il s'agit de forêts primaires.
Oui.
Et d'un endroit tout à fait exceptionnel, parce que le parc des volcans, on sait que c'est un endroit tout à fait magique dans lequel il y a les derniers gorilles et des tas d'espèces endémiques.
Oui, nous on a une de nos lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher, qui d'ailleurs qui fait un travail extraordinaire, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, et Sabrina Kriff, qui justement travaille sur la protection des grands singes. Et quand on sait que les grands singes sont de moins en moins nombreux, c'est vrai que ce grignotage... qui peut paraître relativement faible, mais à un moment donné, bien peut menacer des espèces comme des gorilles.
Alors justement, si nous vous demandions, Jacques Rocher, de désigner les 7 merveilles mondiales de la nature, vous diriez quoi ? C'est une question difficile, hein. Vous avez beaucoup voyagé. Bon, je vais vous aider. Il y a une ONG suisse, New Seven Wonders, qui a lancé mardi une campagne pour désigner ces 7 merveilles mondiales de la nature. Il faut choisir parmi 28 sites retenus. Alors, il y a par exemple la forêt amazonienne, évidemment, les falaises de Moher en Irlande, ou encore la mer morte. Il y a 28 sites. Et c'est le globe-trotteur et cinéaste suisse Bernard Weber qui a lancé cette initiative. Il propose aux internautes de voter, soit par téléphone, soit sur Internet. Ils s'attendent quand même à plus d'1 milliard de votes. Voilà, les résultats seront connus en 2011. Alors, vous qui avez beaucoup voyagé, une fois de plus, petite préférence ?
Entre autres, mais je pense que je n'ai pas tout vu, mais l'Amazonie. C'est clair que quand on est plongé dans cet univers-là, cet univers à la fois végétal, cette immensité, et en même temps, quand on survole cette immensité, qu'on voit justement cette attaque frontale qui en est faite, on a l'impression d'être vraiment à la genèse de l'histoire de la vie sur Terre. Et c'est vrai que j'ai eu un bonheur extraordinaire, c'est de pouvoir nager dans le fleuve Amazon, qui de temps en temps quand même à peu près 30 km de large, donc on est un peu perdu, hein. J'ai eu ce plaisir de nager avec des dauphins d'eau douce. C'est vrai que c'est des moments assez remarquables qui montrent aussi qu'on est qu'on vit dans une petite planète, hein. Mais j'ai plein d'autres endroits, la forêt de cèdres au Liban, à Pcharé, dans le nord de Pcharé, dans le nord du Liban. C'est vrai qu'on avait mené une opération de plantation de cèdres là-bas. Quand vous voyez cette petite forêt de cèdres avec des arbres qui ont 1000, 1500 ans, 2000 ans, vous dites que vous n'êtes que de passage sur Terre.
En tout cas, si vous voulez voter, je vous donne le site www.new7wonders.com.
C'est pas du vent.
Dans C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Et aujourd'hui, on zoome vers l'Europe.
Et l'Europe, c'est avec vous, Élodie Rétière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous emmenez tout d'abord en Espagne, où s'est ouverte la plus grande usine européenne de dessalement d'eau de mer.
Oui, alors l'usine se trouve tout près de Barcelone, dans une région qui a connu 6 périodes de grave sécheresse au cours des 12 dernières années. L'an dernier, les Barcelonais manquaient tellement d'eau douce que les autorités ont dû en importer par bateau. Cette nouvelle usine, qui a quand même coûté 230 millions d'euros, répond donc à un réel besoin, comme l'explique Thierry Mallet, directeur de la société De Grémont, en charge de la construction du site.
La nouvelle usine de Barcelone, qui va avoir une capacité de 200 000 m3 par jour, va permettre de produire à peu près l'équivalent du quart de la demande quotidienne de la zone métropolitaine de Barcelone. Donc c'est la garantie, face à des risques de sécheresse comme à la commune, la région, d'avoir une ressource en eau permanente et indépendante du climat.
Pour comprendre comment fonctionnent ces usines, nous avons joint Éric Le Sueur. Il est directeur de projet chez Veolia et il nous explique qu'il existe deux techniques pour transformer de l'eau salée en eau douce.
Il y a celle qu'on appelle le traitement thermique. Ça revient fondamentalement à chauffer de l'eau de mer, à la faire s'évaporer et à condenser l'eau qui est donc dénuée de sel, puisque le sel reste dans le fond de la bouilloire, si vous voulez. Et ça fait de l'eau qu'on récupère et qui devient de l'eau potable. L'autre famille de procédés, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse, en mettant sous pression l'eau qui est riche en sel, donc l'eau de mer typiquement. On va la faire passer à travers une membrane et on va ainsi la dessaler, laisser d'un côté de la membrane non seulement les sels, mais aussi les micro-organismes, les bactéries, les micro-algues, etc., etc. Et garder de l'autre côté de la membrane de l'eau qui est donc purifiée de tout cela.
C'est donc la deuxième méthode qui est utilisée dans la nouvelle usine espagnole et c'est d'ailleurs la plus commune. Mais le dessalement d'eau de mer a trois inconvénients. Ces techniques sont très gourmandes en énergie, elles sont très chères, environ 1 euro par mètre cube. Et le sel, une fois séparé de l'eau, est rejeté dans la mer, ce qui pourrait à terme perturber l'écosystème marin si la technique se généralise.
Alors pour les vacances, si vous passez par l'Allemagne, il y a un nouveau parc d'attractions qui s'est ouvert dans le nord de l'Allemagne. Ça s'appelle le Klimahaus.
Ce qui veut dire maison du climat en allemand. C'est un bâtiment de 37 niveaux qui ressemble à un immense nuage fait d'acier et de baies vitrées. Une fois à l'intérieur, une exposition interactive vous propose de faire le tour de la planète à la verticale sur une même longitude. Vous partez de Bremerhaven, la ville qui héberge la maison du climat, puis vous partez à la rencontre des bergers des montagnes suisses, des Touaregs du Sahara et de populations autochtones dans l'Alaska. L'idée, c'est de vous montrer en 8 étapes comment les modes de vie diffèrent en fonction du climat.
Et enfin, grâce à une petite invention venue des Pays-Bas, on peut désormais compter sur des plantes vertes pour nous donner l'heure.
C'est la néerlandaise Marieke Staps qui a inventé une horloge écologique. Elle puise son énergie des bactéries présentes dans le terreau. De chaque côté de l'appareil, vous avez des électrodes faites de cuir et de zinc et il suffit de planter ces fils dans deux pots de fleurs pour avoir l'heure. On sait depuis le 19e siècle que l'activité métabolique du terreau génère de l'électricité. La designer a donc mis à profit cette technique, comptez 35 euros pour cette horloge écolo qu'il ne faudra surtout pas oublier d'arroser.
Merci Élodie.
C'est c'est pas du vent @rfi.fr.
Alors j'accrochais peut-être une petite réaction à cette revue de presse européenne.
Moi je trouve ça étonnant d'utiliser le génie de la nature pour la personne qui développe justement une horloge végétale, quoi. Moi ça me fascine, ça. Je trouve qu'on a tellement à apprendre de l'inventivité de la nature, et souvent on oublie de la regarder. Et moi j'ai un ami qui est sculpteur, qui a 88 ans, qui s'appelle Franz Kraschberg. Quand je suis avec lui, il sculpte des bois brûlés au Brésil, justement des bois qu'il récupère. Et à chaque fois que je suis avec lui, que je regarde une fleur, il me dit, mais regarde cette magie de la vie. Et je crois qu'on a vraiment à apprendre de ça, quoi, à être un peu plus, justement, avoir un regard un peu plus à la fois lucide et puis précis sur cette magie de la vie.
Alors justement, vous êtes chef d'entreprise aussi, donc comment est-ce que vous faites pour concilier développement économique et respect de l'environnement ?
Ah, c'est une balance toujours difficile, délicate, mais je crois qu'on peut y arriver si on est d'abord sur une démarche de respect du vivant. Et puis derrière, c'est vrai qu'une entreprise comme la nôtre, Yves Rocher, on fabrique 300 millions de produits cosmétiques par an. Donc ça fait pratiquement 1 million de produits par jour. Donc ça veut dire que derrière, on a des usines, on génère des déchets, on utilise de l'énergie. Moi, je crois beaucoup à la fois à l'intelligence de l'homme. Hein, si aujourd'hui, on valorise à peu près 90% de nos déchets. C'est vrai qu'il y a encore peut-être 10 ans, on était à 50%. Moi, je crois beaucoup au fait que aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, on est amené, que le soit consommateur et bien évidemment industriel, à aller un peu plus loin que le bout de notre nez. Et ça, c'est important parce que je pense que c'est les consommateurs qui nous sommes qui poussent les industriels à évoluer. Et on le voit bien dans le monde de l'automobile. Et encore quelques années, on parlait de General Motors, etc. Qui aurait pu penser que General Motors allait tomber en faillite ? En proposant, pas simplement, mais des Hummers, hein, qui sont des engins...
Gros 4x4
D'imbéciles, excusez-moi, parce qu'en plus, ils sont incapables de les garer. Donc, c'est vrai que cette société qui était surpuissante, à un moment donné, elle s'est trouvée malmenée. Donc je pense que, encore une fois, pour moi, le respect est un élément essentiel, et puis le regard. Et c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de la nature. Et nous, on puise, encore une fois, notre richesse, nous, Yves Rocher, on puise notre richesse de cet élément végétal. Et on se doit, justement, de le respecter.
Alors aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui surfent sur toutes ces idées écologiques. Et souvent, les gens sont... La réaction est souvent de dire, mais est-ce que c'est pas du greenwashing ? Est-ce que là, on n'est pas en train d'essayer de verdir un petit peu la façade pour mieux vendre un produit ?
Certainement, il y a de ça. Mais en ce qui concerne une entreprise comme la nôtre, moi, je vous invite à venir dans mon village, à Lagassi, pour voir que, effectivement, on fait de l'environnement depuis 50 ans.
Alors, Jacques Rocher, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Ce sera dans quelques minutes, juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons de l'action de votre fondation, qui a l'ambition de planter 20 millions d'arbres à travers le monde d'ici 2011. À tout de suite.